L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, frères et sœurs, l'Éternel est notre berger. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de celui que l'Épître aux Hébreux appelle le grand berger des brebis, Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce culte, qui pour moi est un culte d'adieu. Bienvenue, que vous soyez paroissien de l'oratoire ou de passage à Paris. Aujourd'hui, nous avons la joie de baptiser deux enfants, Élise et Maxime. Je salue leurs parents, les membres de leur famille. C'est une joie pour l'Église d'accueillir ces baptêmes aujourd'hui. Sans plus attendre, frères et sœurs, je vous invite à la prière. Prions. Ô notre Dieu, notre foi est une feuille de platane qui flotte au vent, une flamme de bougie qui tremblote, un filet de voix qui cherche son timbre. Nous ne disons pas que notre foi est par terre, ni qu'elle est éteinte, ni qu'elle est morte. Mais voici, notre foi, elle est menue et mal assurée. Nous ne sommes pas des surdoués en la matière. Mais Seigneur, nous savons que tu ne convoques pas les surdoués dans une église d'élite. Tu cherches et tu trouves ceux qui ne sont pas doués, et c'est avec ceux-là que tu chemines jusqu'au royaume de ta vie et de leur vie. Alors nous t'en prions, Seigneur, viens, viens, nous t'attendons. Amen. Je vous invite à vous lever pour bénir l'Éternel avec le premier spontané. Nous louons l'Éternel. Te louer, mon Dieu, c'est construire un château de petits cailloux que l'enfant glane sur le chemin de ses rêveries. Te louer, c'est faire un festin d'un bout de pain qu'offrira un voisin et qu'on mâchera lentement dans une religieuse attention au simple fait d'être vivant. Te louer, Seigneur, c'est siffler un air de printemps au plus profond d'un soir d'hiver. C'est regarder le point minuscule d'une étoile dans le ciel et revoir à la hausse les dimensions de l'univers. C'est aussi revoir à la baisse notre propre importance. C'est se sentir petit et immense de te connaître. Te louer, Seigneur, c'est rire pour trois fois rien aimer. C'est jouir simplement de se sentir vivant dans une poignée de main. Te louer, mon Dieu, c'est mordre dans un fruit, c'est goûter un vin nouveau, c'est reconnaître enfin ta divine alchimie derrière le goût de l'eau. Et nous poursuivons notre louange en chantant au psaume 47, les strophes 1, 2 et 3, le psaume 47. Nous écoutons la volonté de Dieu. Je veux faire sortir chaque homme et chaque femme de l'esclavage et je promets que tous seront libérés de tous leurs esclavages. Voici le chemin. Tu n'auras pas d'autre Dieu pour me braver. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de tous les dieux dont tu es esclave, orgueil, ambition, volonté de puissance. Tu ne te feras aucune représentation de celui que je suis. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les images et les idées que tu te fais de moi. Tu ne feras pas référence à mon nom pour de fausses raisons. Je te le promets, tu cesseras d'invoquer ma volonté pour justifier ce que tu désires. Tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton travail et de tes besognes. Tu honoreras ton père et ta mère. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les autorités et ainsi tu pourras les respecter sans crainte. Tu ne commettras pas de meurtre. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir de nuire à ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton corps et de celui de ton prochain. Tu ne commettras pas de vol. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes biens et de ceux de ton prochain. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir de travestir la vérité pour qu'elle te serve. Tu ne convoiteras pas. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes désirs, ambitions et frustrations. Voilà ce qui t'est promis et demandé. Tu seras libre vis-à-vis de tous les esclavages, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Éternel, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie, non pas seulement mes manquements ou des pensées furtives, mes prières secrètes et mes élans momentanés, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit apaisée par toi. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de toi. Je te demande de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant, de me délivrer de l'illusion que je suis impeccable, de me délivrer de l'obsession que je suis impardonnable. Rappelle-moi, Éternel, que la paix vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. À celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l'eau, de la source de la vie, je la lui donnerai gratuitement. Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes, et qui nous appelle à une vie nouvelle. Oui, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et la joie de vivre en sa présence. Je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Je crois en Dieu, Créateur. Je ne crois pas qu'il ait fait le mal. Il recherche la voie de la paix. Il trace une route pour notre monde. Il éclaire le chemin de l'humanité. Il donne un sens à notre vie. Je crois en Dieu révélé par le Christ. Je ne crois pas en un Dieu qui nous culpabilise de notre péché. Je crois au travers des rencontres de Jésus en un Dieu qui accueille les situations et les personnes. Je crois au Dieu de la nouvelle chance. Je crois en Dieu qui est esprit et qui éclaire nos intelligences. Je ne crois pas au Dieu des certitudes étriquées et des dogmes imposés qui mettraient en berne la raison humaine. Je crois au Dieu du mouvement et du renouvellement. Je crois au Dieu vivant de la créativité. Je crois que Dieu donne à chacune et à chacun d'entre nous la mission de construire un monde plus beau, plus juste, plus fraternel, plus vivant. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité.
Voilà, nous allons maintenant célébrer deux baptêmes, celui d'Élise et celui de Maxime. J'invite maintenant leurs parents, Maïté et Gilles, les parents d'Élise et ainsi que Alice et Eric, les parents de Maxime, à s'approcher. L'Église se réjouit de votre démarche. J'invite aussi leurs parrains et marraines à vous rejoindre, Léa et Dailan pour Élise, et puis pour Maxime, Romain et Anaïs. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église, ce que nous lisons dans la finale de l'évangile de Matthieu. Le ressuscité s'adresse à ses disciples en leur disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc aujourd'hui, Élise et Maxime vont être baptisés au nom du Père, qui leur a donné le souffle de vie. Ils vont être baptisés au nom du Fils, Jésus-Christ mort et ressuscité, pour tous les deux, les appelle à son service. Élise et Maxime vont être baptisés au nom du Saint-Esprit, qui fera naître en eux la foi, l'espérance et l'amour. Oui, chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. Oui, c'est vrai, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à vous lever en signe de communion avec ces néophytes, ces nouveaux futurs baptisés. Je vais baptiser maintenant Élise. Élise, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi, cette parole est vraie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, qu'il ait la vie en abondance. Voilà. Voilà, maintenant c'est Maxime qui se présente. Maxime, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi, cette parole est vraie. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour, toute ma complaisance. Voilà, nous venons de baptiser Élise et Maxime. Vous, leurs parents, vous promettez, en comptant sur la grâce de Dieu, de prier pour eux, de leur faire connaître l'Évangile, le culte et la vie de l'Église. Gilles et Maïté, est-ce bien là ce que vous voulez pour elles? Si c'est cela que vous voulez, je vous invite à dire après moi, oui, que Dieu nous soit en aide.
Oui, que Dieu nous soit en aide.
Alice et Eric, est-ce bien là ce que vous voulez pour Maxime? Je vous invite à répéter après moi, oui, que Dieu nous soit en aide.
Oui, que Dieu nous soit en aide.
C'est maintenant aux parrains et aux marraines que je m'adresse. Je les invite à venir s'approcher de moi. Vous, parrains, vous, marraines, vous promettez, en comptant, là aussi sur la grâce de Dieu, de prier pour votre filleule, de l'entourer de votre affection, d'accompagner sa famille avec fidélité. Léa et Dailan, est-ce bien là ce que vous voulez? Je vous invite à répéter après moi, oui, que Dieu nous soit en aide.
Oui, que Dieu nous soit en aide.
Anaïs et Romain, est-ce bien là ce que vous voulez? Je vous invite à répéter après moi, oui, que Dieu nous soit en aide.
Oui, que Dieu nous soit en aide.
Frères et sœurs, voici les nouveaux baptisés, on les entend d'ailleurs. Par ce baptême, nous attestons qu'Élise et Maxime sont enfants de Dieu, sont ici dans leur communauté, vous êtes leur famille, vous leur accorderez le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne les retiendra dans la communauté chrétienne, mais s'ils viennent à s'en séparer, vous affirmerez qu'ils peuvent toujours y retrouver leur place. Vous serez ainsi pour ces deux enfants des témoins de l'amour de Dieu. Et ce sera notre joie qu'ils confessent un jour que Jésus-Christ est le Seigneur. Je veux maintenant vous donner la parole pour la prière d'action de grâce. Je vais d'abord donner le micro à Eric.
Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Maxime qui vient de recevoir le signe de ta grâce. En ce lieu si cher à ma famille, où je fus moi-même baptisé il y a 35 ans.
Nous te remercions pour notre propre baptême, pour le second enfant que tu nous confies et pour la fidélité de ton amour. Nous nous engageons, à travers ce baptême, à transmettre à Maxime les valeurs chrétiennes qui nous sont chères, amour, pardon, partage et charité. Nous ferons de notre mieux pour les lui démontrer au quotidien au sein de notre famille.
Nous te prions pour que tu nous accompagnes sur ce chemin et que tu éclaires celui de Maxime tout au long de sa vie.
Amen. Amen.
Merci. Voilà maintenant Gilles et Maïté.
Élise, nous souhaitons par ce baptême te donner l'occasion de connaître le message du Christ. la possibilité d'entrer, si tu le souhaites, dans l'église où tu as déjà ta place. Nous souhaitons te donner la curiosité, la confiance et l'envie de découvrir ce message et le monde. D'y inscrire ton action dans les domaines que tu choisiras, que le Saint-Esprit t'aide à discerner dans ta vie l'essentiel de l'accessoire, t'apporter la confiance plutôt que la méfiance, la joie plutôt que la crainte, l'amour plus fort que la mort. Amen.
Frères et sœurs, je vous invite maintenant à chanter le cantique numéro 204, « Seigneur, dirige et sanctifie ». Voilà. Voilà. On va signer. Voilà, on va signer les registres.
Je vous invite à vous asseoir. J'ai retenu pour ce culte un bref passage du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, les versets 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique numéro 190, « roi des anges, les strophes 1, 2, 3 et 4, le cantique numéro 190. Je vous invite à vous lever dans le recueil Louanges et prières. Grâce te soit rendue pour ta parole, ô Dieu, notre Père, où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, connaissant parfois quelques joies, mais si souvent de grandes épreuves du corps, de l'esprit ou de l'âme, tourmentées par tant de choses diverses dans le tumulte du monde qui nous entoure, nous te bénissons de nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Que la méditation de ta parole mette véritablement dans nos cœurs une lumière nouvelle qui éclaire notre chemin pendant les jours qui viennent et qui nous rende capables d'être dans le monde de meilleurs annonciateurs de ton amour par notre service, notre témoignage et notre propre amour. Ce qui compte d'abord, c'est la parole. C'est ce qu'a déclaré un jour l'écrivain italien Henri De Luca, un homme assurément pétri de culture biblique. Oui, c'est vrai. D'abord, la parole, avant toute chose. Sans elle, rien n'est possible dans la vie. C'est d'ailleurs vrai de la création. Dieu dit et le monde advient. C'est vrai du salut. L'évangile commence avec la voix de celui qui crie dans le désert en annonçant que Dieu s'approche, qu'il est temps de changer de regard et de faire confiance à ce qui vient. C'est encore vrai de toutes les réalités humaines. À l'origine de toute relation, il y a cette évidence de la parole, comme le rappelle Rousseau dans son essai sur l'origine des langues. Il écrit que ce n'est ni la faim ni la soif, mais l'amour, la haine, la pitié, la colère qui ont arraché aux hommes les premières voix. Et c'est encore la parole qui est au commencement de l'Église. On pourrait même avancer, mais cette proposition est extrêmement classique, que l'Église se définit par l'annonce de la parole de Dieu à travers la prédication et les sacrements. L'Église surgit, elle prend naissance chaque fois que des hommes et des femmes se réunissent physiquement pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu en non-lieu et en un temps donné. C'est ce que nous faisons ce matin, comme tous les dimanches, en cet oratoire du Louvre. Et nous en avons aussi un exemple éclatant dans le récit des Actes des Apôtres que j'ai fait le choix de vous lire. Cette nuit de Troas, tellement riche en péripéties. Car c'est bien de la célébration de la parole de Dieu qu'il est question dans ce récit. Nous avons là une description du culte chrétien en son surgissement originel. Quand ? La scène se situe à l'issue du sabbat, pendant le soir qui inaugure le premier jour de la semaine. Car bien évidemment, pour cette communauté fraîchement issue du judaïsme, le jour du Seigneur commence la veille au soir, la nuit venue, dès qu'on peut distinguer trois étoiles dans le ciel. Il s'agit bien d'une veillée, d'une vigile, dans l'attente de celui qui est, qui était et qui vient. Oui, les chrétiens, c'est d'ailleurs le nom qu'on leur a donné à Antioche quelques années auparavant, les chrétiens répondent à une convocation et Paul leur adresse la parole dans le cadre d'un entretien long, très long. Et la fraction du pain vient accomplir cette réunion dans l'action de grâce en commémorant le dernier repas de Jésus, ce geste étant compris comme le signe d'une alliance avec Dieu, une alliance nouvelle et éternelle. Où ça ? Ce culte se passe dans une maison privée dont le propriétaire a mis la chambre haute à disposition des fidèles du Christ. Est-il lui-même un frère, un sympathisant ou un simple bailleur ? Nous n'en savons rien. C'est là, dans un espace banal et fonctionnel, que le message est délivré. C'est là que commence l'Église, c'est l'acte originel, fondateur, qui s'actualise ce matin selon un autre horaire, en un tout autre lieu, comme si nous devenions les contemporains de la scène relatée par l'auteur du livre des Actes. Oh, je rappelle que le mot grec « ecclésia » qui a donné « église » est un mot qui vient du vocabulaire profane, qui veut dire « réunion », « meeting ». D'ailleurs, chez les darbistes que j'ai un peu fréquentés, naguère, on ne parle pas du culte, on parle encore de la réunion. Chaque fois que des chrétiens se réunissent à l'écoute de la parole de Dieu, l'Église commence. Oui, l'Église, c'est classique de le dire, elle est toujours d'abord un événement de grâce. Alors, il faut bien mesurer que cette conception de l'Église, comprise d'abord comme un événement, l'événement d'une parole proclamée et reçue nous conduit à relativiser d'autres conceptions de l'Église. L'Église n'est pas d'abord une communauté, un groupe, un peuple. Parce que bien sûr, si l'on pense l'Église de la sorte, le risque c'est d'être finalement obsédé par la question de l'appartenance. Qui fait partie du groupe et qui n'en fait pas partie? Quels sont les critères d'appartenance à la communauté? D'ailleurs, paradoxalement, les groupes qui n'arrêtent pas de parler de fraternité, de communion, de solidarité, sont en fait des machines à exclure. Forcément, parce que tout groupe a des frontières et des limites. Et alors l'Église, lorsqu'elle se conçoit d'abord comme une communauté, elle fonctionne au mieux comme un club, sous le signe de l'entre-soi. Et on sait bien qu'un club, il a son ticket d'entrée. Il faut souvent montrer patte blanche, il faut des parrainages. Un club, il a ses rituels d'intégration et d'initiation. Il a ses coutumes, un droit non écrit. Il faut connaître les codes. Tant mieux si ça marche. Au pire, dans cette conception, on aura un panier de crabes où les gens sont souvent dans le conflit, comme dans ces familles, on a envie de dire ces tribus, où l'on s'entre-déchire délicieusement, faute de pouvoir jamais se séparer. Eh bien, penser et vivre l'Église comme un événement peut nous libérer de cette obsession de la communauté. Parce qu'en cet instant précis, notre assemblée, notre ecclésia, elle est sans doute extraordinairement variée, et c'est tant mieux. J'imagine que parmi vous, il y a des mécréants et des mystiques, des gens prêts à confesser leur foi et d'autres qui doutent et qui s'interrogent, qu'il y a certains d'entre vous qui sont rongés par l'inquiétude et d'autres qui sont dans une paix qui dépasse toute pensée et toute intelligence. Oui, notre assemblée, elle est extraordinairement composite. On y trouve certainement du bon grain et de l'ivraie, des professants et des inconvertis. Mais ce qui fait notre communion, c'est que nous sommes tous réunis à l'écoute d'une parole. Ce n'est pas à nous qu'il incombe de faire le tri pour savoir qui est digne de faire partie de la communauté. À Dieu seul de s'y retrouver, puisque c'est lui qui vient à nous pour nous parler à travers la prédication et les sacrements. Ceci étant, cela ne signifie pas non plus que la communauté n'ait aucune importance. Si l'Église n'est pas d'abord une communauté, il ne s'ensuit pas qu'il faille tenir pour négligeable ce qui est communautaire dans l'Église. Car bien évidemment, la réunion chrétienne, elle est quand même appelée un peu à se prolonger. Il est normal et il est souhaitable que ceux qui se retrouvent à l'occasion du culte tissent des liens entre eux. L'Église a vocation à durer, elle n'est pas faite pour l'éminente dignité du provisoire. Et on sait bien qu'on n'est pas chrétien tout seul. Ceux qui croient en Christ forment un seul corps et dans la foi ils sont appelés, oui c'est vrai, à devenir frères et sœurs. Ils sont appelés à se regrouper, à se connaître et à s'aimer et à vivre autant que faire se peut ensemble dans le partage des peines, des joies, parfois même des biens. Dans le passage du livre des Actes que je vous ai lu, il y a un verbe. On nous dit que Paul s'est entretenu avec les disciples, homilesas, voilà. Un mot qui a donné homélie, qui ne veut pas dire sermon, mais qui veut dire conversation familière. Ça veut dire que l'Église n'est pas que proclamation, elle n'est pas qu'enseignement. Et Dieu sait que Paul a consacré du temps à cet enseignement avec sa compétence de scribe. L'Église, elle est aussi homélie, elle est conversation, mise en commun d'une parole humaine. L'Église, c'est une communauté de paroles, une communauté langagière, comme disait Paul Ricoeur. Le risque, c'est que ce langage, il risque toujours de sombrer dans le conformisme, le convenu, le convenable, de n'être plus que de la communication, dans la complaisance, dans le verbiage, ce qui est tout autre chose que le verbe. Il faudrait alors, pour reprendre l'expression de Mallarmé, donner un sens plus pur au mot de l'attribut. Et telle est, je crois, la fonction de la proclamation de l'Évangile, qui a pour but de rompre ce qu'il peut y avoir de ronronnant dans la conversation ecclésiale. Si l'Église n'est pas d'abord une communauté, j'aimerais aussi insister sur le fait qu'elle n'est pas non plus d'abord une institution. Puisqu'elle est avant toute chose un événement, elle ne peut pas se définir non plus par ses structures et ses ministères. Bien sûr, l'Église, elle en a besoin pour vivre, pour s'organiser. Mais tout cela répond à des besoins pratiques. Le Nouveau Testament, d'ailleurs, n'impose aucunement une forme précise de vie d'Église à maintenir, à reproduire ou à restaurer. Paul est un évangéliste, il va d'église en église, il est de passage à Troas avant de repartir pour Milet, où il a donné rendez-vous aux anciens de l'église d'Éphèse. Oui. En organisant les premières communautés, ce qu'on appelle les apôtres ont tenu compte des circonstances et du milieu. Ils n'ont pas voulu établir des structures valables partout et toujours. Finalement, l'organisation ecclésiale, elle dépend en partie du contexte. Et on voit bien que dans le Nouveau Testament, il y a une pluralité de modèles possibles. Le système presbytérien, le régime d'assemblée générale, l'épiscopat monarchique. Et selon les lieux et les temps, on peut adopter finalement des formules extrêmement différentes. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais absolutiser les institutions qui ne relèvent pas du droit divin. Mais là encore, si l'Église n'est pas d'abord une institution, il ne s'ensuit pas pour autant qu'il faille tenir pour rien ce qui est de l'ordre de l'institution, bien évidemment. L'oubli, le mépris, voire la violation des règles institutionnelles est toujours source de problèmes et de crises dans l'Église, comme dans toute organisation sociale. Alors me direz-vous, chers amis, à quoi sert l'institution, au-delà des questions de logistique et d'intendance et de règlement intérieur d'une association? Dans certaines églises, l'institution, elle a pour vocation de gérer l'économie du sacré. Elle a une fonction médiatrice. Elle rend présent le divin et le communique à tous. Elle fait le lien, elle fait le pont avec Dieu, elle établit le contact avec lui. Eh bien, c'est avec une telle conception de l'institution que les réformateurs ont voulu rompre. Pour certains, l'institution, elle a pour tâche de créer et de développer une communauté. L'Église aurait alors une fonction de rassemblement, comme je le signalais tout à l'heure, formée de frères et de sœurs appelés à se connaître et à s'aimer. Et l'institution, alors, elle joue son rôle quand elle offre un cadre où le fidèle trouve sa place, participe à la vie commune et exerce une responsabilité. Il y a ainsi, il faut bien le reconnaître, le rêve d'une vie, d'une église experte en cocooning, une église qui serait une sorte de phalanstère spirituel. Pour d'autres encore, l'institution doit favoriser l'émergence d'un instrument d'action présent au monde, pour le convertir par exemple. Alors l'Église, elle se pense comme une institution missionnaire, investie dans l'évangélisation, portée par un rêve de croissance. Il faut gagner des âmes. Pour d'autres encore, l'Église doit être un instrument de transformation de la société, et l'institution se donne alors comme projet de lutter contre les injustices, de dénoncer l'intolérable, de participer à tous les combats pour un monde plus humain, comme dans une anticipation du royaume de Dieu. L'Église, c'est alors le levain dans la pâte. Mais, chers amis, si j'affirme que l'Église est d'abord un événement, celui de la parole de Dieu, alors la mission première de l'institution, c'est d'offrir à tous, quelle que soit leur appartenance ou leur non-appartenance, c'est d'offrir à tous un temps et de bonnes conditions pour l'écoute et la réception de la parole. L'institution, elle atteint son but, elle remplit sa finalité quand elle se met au service de l'événement de la parole. À cet égard, le rôle de l'Église est important, c'est vrai. Mais dans ce domaine, l'Église est invitée aussi à la modestie. Elle ne doit pas s'accorder en tant qu'institution une valeur démesurée, car il est bien évident que l'institution ecclésiale ne peut pas provoquer l'événement de la parole. Seul l'Esprit de Dieu fait que la prédication devient porteuse de la parole de Dieu. Karl Barth disait avec raison que la première chose que devrait faire un prédicateur en descendant de chair, c'est de prononcer une prière de repentance. Il faut bien reconnaître en effet que la prédication, notre prédication, n'a pas toujours l'effet escompté. Il n'est pas rare qu'elle endorme le peuple de Dieu ou l'incite à prier pour que le prédicateur en finisse au plus vite. Je crois même que l'ennui lié à la prédication a été un défi pour le peuple de Dieu depuis le début. Peut-être bien que Tic s'est endormi pendant le culte, terrassé par la fatigue et l'ennui. Et pourtant, ce jour-là, le prédicateur, c'était Paul. Paul qu'à Athènes, on avait d'ailleurs surnommé le radoteur, le perroquet. Oui, frères et sœurs, lequel d'entre nous ne s'est pas morfondu à l'écoute de tel ou tel prêcheur ? Il n'est pas exclu que Paul lui-même ait parlé d'un ton si monotone ou débité de telles banalités qu'en l'écoutant, on ait pu littéralement mourir d'ennui. De plus, Dieu peut parfaitement faire entendre sa parole en dehors de l'Église. L'institution, elle n'est pas propriétaire de l'événement qui l'a fait vivre. Elle n'en a pas l'exclusivité. L'événement, il peut se produire, Dieu merci, ailleurs qu'entre nos murs. Comme le ressuscité, la parole de Dieu, elle est passe-muraille. Elle ne se laisse pas estampiller ou labelliser. L'Église, elle correspond au moment où se produit l'événement de la rencontre avec la parole de Dieu. Si cet instant, ce kairos, ce bon moment, fonde et nourrit la vie chrétienne, il ne l'englobe pas ni ne la résume. Ce moment s'accompagne d'autres moments, ceux de la militance, de l'engagement, du témoignage, du service, qui se situent souvent ailleurs que dans l'Église et en dehors d'elle. Et je pense en disant cela à ceux qu'écrivait ce cher Raphaël Picon, vous trouverez cela dans son livre « Des églises pour l'essentiel ». Raphaël Picon écrivait « Les églises sont nécessaires, mais pour enseigner ce qui les rend d'emblée relatives et secondes, à savoir l'Évangile qui les fonde et les anime. Des églises, il faut s'en affranchir dès qu'elles se prennent pour l'Évangile et prennent notre place. Oui, nous voulons des églises qu'elles ne s'engagent pas à notre place, mais qu'elles nous recentrent sur l'essentiel, un Évangile qui nous convoque, qui nous appelle et qui nous donne la parole. Bref, l'Église n'a pas son sens et son but en elle-même, elle doit prêcher l'Évangile, elle n'a pas à se prêcher elle-même. Dit autrement, l'institution ecclésiastique ne constitue pas un magistère, l'Église n'a rien à commander, elle est un ministère, c'est-à-dire un service. En tant qu'institution, l'Église est au service de la parole, cette parole dont Paul Ricoeur écrivait qu'elle est l'institution qui fonde toutes les institutions. Alors, frères et sœurs, ce dont l'Église a besoin, c'est aussi de serviteurs de la parole. Et peu importe que ceux-ci soient reconnus, institués ou ordonnés, serviteurs de la parole, cette expression, elle apparaît dès les premières lignes de l'Évangile de Luc. Et oui, parce que, bien sûr, Dieu n'a pas d'autre parole que les nôtres, accomplie par Jésus, attestée par les apôtres. Le ministère de la parole est désormais assumée par des êtres de chair et de sang. Oui, par la voix d'hommes et de femmes, la parole de Dieu avance dans notre monde. Et Paul en est un exemple éclatant. Et c'est à la lumière de cette théologie de la parole que le récit du miracle de la réanimation de Tyche prend tout son sens. Ce que Luc veut nous dire dans ce petit récit, c'est que rien ne peut verrouiller cette parole porteuse de vie. Minuit, c'est souvent l'heure de la puissance des ténèbres. Mais dans les actes, c'est l'heure de la délivrance. L'heure à laquelle celui qui, dans la foi, n'est encore qu'un enfant, sort enfin de son sommeil et renaît à la vie, à la vraie vie. C'est l'heure à laquelle Paul descend et le prend dans ses bras, comme une mère prend son petit pour le ramener vers le haut, vers la lumière. Minuit, c'est l'heure à laquelle le serviteur de Dieu fait passer Eutyche de la mort à la vie, des ténèbres de l'extérieur à la clarté de la chambre emplie de luminaire. C'est l'heure à laquelle Paul le fait passer de l'endormissement à la pleine conscience. Ah oui, qu'il porte bien son nom, Eutyché, la bonne fortune, le chanceux, le vénard. Oui, Luc célèbre ainsi le pouvoir créateur et recréateur d'une parole qui, venue de l'éternité, prend aujourd'hui chair en des hommes et en des femmes qui, il faut bien le reconnaître, n'ont rien d'extraordinaire. Oui, chers amis, le christianisme n'est pas admirable parce que ses adeptes seraient des héros triomphants, mais parce qu'ils sont porteurs d'une parole admirable, porteuse d'un sens et d'une puissance qui ont en Dieu leur source originelle. Oui, dans cette belle veillée pascale de Troas, Paul partage avec ses frères et ses sœurs une parole dont il n'est pas le maître, mais l'humble serviteur. Son absence prochaine n'est d'ailleurs pas escamotée, et alors il partit au petit jour, est-il précisé. Oui, demain, l'apôtre ne sera plus avec eux pour les exhorter et poursuivre l'entretien, mais qu'importe, après tout, d'autres seront là pour prendre la relève. Paul, lui, il ne fait que passer, à l'instar de son maître, Jésus, le serviteur de la parole par excellence. Mais Paul, comme Jésus, est comme une force qui va. Alors, heureux les serviteurs de la parole, sans attache, sans feu ni lieu, mais qui, comme il est écrit dans la finale du livre des Actes, sont libres de proclamer le royaume et d'enseigner ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ sans entrave et avec toute assurance. Oui, frères et sœurs, sans entrave et avec toute assurance. Amen. Nous allons maintenant chanter le cantique numéro 178 qu'aujourd'hui toute la terre, nous chanterons les strophes 1, 3 et 6 du cantique 178. Je vous invite à vous lever.
Chers amis, bonjour. Tout d'abord, un très très grand merci à Richard Cadoux qui conclut par ce culte son ministère à l'oratoire. Et un grand merci à Sarah Kim pour son accompagnement à l'orgue aujourd'hui. Pour cette semaine, lundi 25 juin, il y aura Hébreu biblique progressant avec Christophe Siemienski de 19h à 20h30, salle Roberti. Dimanche prochain, 1er juillet, Jean-Pierre Rive assurera le culte et il sera accompagné à l'orgue par Alexandre Korovitch. Il y aura une vente de gâteaux pour la route 2019, donc pas de dessert à prévoir pour dimanche prochain. Pour ce culte d'adieu de Richard, vous êtes tous attendus donc à l'issue du culte dans la grande sacristie pour partager un verre de l'amitié avec Claude et Richard. Et nous avons une demande, c'est qu'après le chant de sortie, contrairement à notre habitude, vous restiez assis pendant que l'orgue joue pour que André, le président du conseil presbytéral, puisse dire quelques mots d'au revoir à Richard de la part de notre communauté à l'issue de ce morceau d'orgue. C'est maintenant le moment de l'offrande.
Merci Sarah. Je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous te rendons grâce parce que tu es créateur. Nous te rendons grâce pour ton Fils qui fait route avec nous. Nous te rendons grâce pour ton Esprit qui souffle en nos cœurs et sur le monde. Nous te prions pour ta création, que nous soyons conscients de notre responsabilité envers ce monde que tu as fait si grand et si bon. Nous te prions pour nos frères et nos sœurs en humanité, pour ceux qui sont pauvres, malades, faibles, démunis. Puissions-nous être attentifs à celles et ceux que tu places sur notre route. Nous te prions pour l'avancement de l'Évangile dans le monde. Puissions-nous vivre en témoins de la bonne nouvelle, en serviteurs de la parole et en artisans d'un monde nouveau. Alors dans cette attente d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme texte d'envoi, alors j'ai trouvé cette semaine sur un site très sérieux d'une église réformée cet horoscope, voilà, alors qui concerne ceux qui sont nés entre, bien sûr, le 1er janvier et le 31 décembre, et qui sont nés, bien évidemment, sous le signe de la grâce de Dieu. Alors, vie quotidienne, c'est vrai que tout a l'air souvent compliqué, mais ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Cherchez d'abord le royaume et la justice, tout cela vous sera donné par surcroît, et ne vous inquiétez donc pas de lendemain. Amour, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voyage, n'hésitez pas, l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée dès maintenant et à jamais. Météo, vous connaîtrez des tempêtes intérieures et des moments de dépression. La pluie comme la sécheresse seront certainement au rendez-vous, mais si vous construisez votre maison, votre vie, vos projets sur le roc de la parole, alors votre maison ne s'écroulera pas. Santé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et enfin, argent, parce que ça compte, l'agence de notation divine vous maintient son triple A malgré toutes vos angoisses, car Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse par Jésus-Christ. Alors, en attendant, que Dieu vous bénisse et vous garde. Allez dans la paix de Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
cher Claude, cher Richard, avant de vous laisser recevoir les témoignages d'amitié et de reconnaissance de toute cette communauté, je voudrais, au nom de précisément cette communauté, au nom du Conseil presbytéral, au nom de l'entraide, vous témoigner notre amitié, notre reconnaissance pour cette année. Ce fut trop court, mais je voudrais que tu saches que le Dieu de la promesse, le Dieu de la présence dont tu as parlé si souvent au cours de tes prédications, au cours des méditations que tu nous as proposées en début de conseil presbytéral lors de chaque réunion, des prières silencieuses que tu as faites avec des paroissiens le samedi ici, ce Dieu de présence, eh bien, nous ne l'oublierons pas, il vivra en chacun de nous et tes prédications résonneront dans nos esprits et dans nos cœurs, sois-en persuadé. Je voudrais aussi te dire que, à l'occasion, bien entendu, où vous serez à Paris, non seulement vous serez les bienvenus, mais que nous espérons que peut-être, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, nous aurons le plaisir de vous retrouver et de t'entendre prêcher ici, à nouveau, à l'oratoire. Alors, nous avons trouvé, d'abord, il y a un petit livre d'or qui te sera remis avec un petit témoignage d'amitié. Et puis, nous avons trouvé un livre qui est une illustration de la Bible. C'est la British Library qui a présenté des enluminures. C'est une Bible enluminée, 40 passages de la Bible enluminée, qui, je l'espère, vous permettra de re-réfléchir, relire cette Bible qui est notre lecture quotidienne. En tout cas, nous vous l'offrons à tous les deux avec grand cœur. Et je voudrais peut-être que, avant de vous laisser la place, nous applaudissions très fort, Richard.
Que dire ? Tout d'abord, je vais dire simplement, c'est ma deuxième standing ovation. Voilà. Il y en a déjà une dans l'église de Vernou, à l'issue de mon proposana, quand j'ai fait savoir à l'église que je restais finalement à Vernou plutôt que d'aller prendre un poste ailleurs. Donc voilà. Merci pour tous ces cadeaux. Je suis extrêmement, extrêmement sensible à ces présents. Voilà, ils concrétisent l'amitié, la sympathie, l'affection qui ont été manifestées par beaucoup d'entre vous tout au long de l'année. Cette année qui n'a pas été facile, qui n'a pas été simple, qui a été éprouvante. Mais enfin, j'en sors vivant, donc c'est très bien. C'est très bien. Voilà, l'oratoire du Louvre, dans ses pasteurs, dans son conseil presbytéral, est appelé, bien évidemment, à vivre des renouvellements. Je vais vous laisser le temps de vivre ces renouvellements en toute paix et en toute simplicité. Et bien sûr, plus tard, je reviendrai, car j'ai tellement d'attache à l'oratoire qu'il est impensable que Claude et moi, dont le mariage a été béni ici, nous ne revenions pas dans ces murs et au sein de cette communauté. Alors, je vous dis au revoir et bon dimanche.